Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour et rebonjour à tous et à toutes. Alors actuellement, le sujet, ça va être Sarin. Sarin, ouvre-toi à nous, dis-nous tout. Qu'as-tu à nous dire?
Le titre de ma chronique, c'est « Quel avenir pour la fonderie Horn ». D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi la fonderie Horn. Bien, c'est une fonderie et aussi le plus grand centre de tri de composants électroniques en Amérique du Nord. C'est une fonderie qui est située à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, puis est en opération depuis 1927 et va prendre le nom du prospecteur Edmund Horn. La fonderie va produire des anodes, soit des plaquettes de cuivre, qui sont pures à 99%. Les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués à la fonderie, ça va être le groupe Glencore qui possède la fonderie depuis 2013. C'est une compagnie anglo-suisse qui emploie plus de 9000 employés dans 50 pays. Et c'est aussi un très grand employeur dans l'économie locale de Rouyn. C'est une compagnie qui se dit vouloir améliorer ses performances environnementales et c'est ça la grande question aujourd'hui. Pour vous donner aussi une idée de Rouyn-Noranda, ça représente 43 000 habitants. C'est pas un village, c'est pas la campagne. C'est la 29e plus grande ville du Québec quand même. Et ça va être 1600 employés indirects qui vont travailler pour Glencore, puis 550 employés directement à la fonderie suite à des mises à pied qui auraient entraîné la perte de plus de 50 emplois. Il y a d'autres acteurs qui sont aussi la population qui veulent plus de protection en ce qui a trait notamment à une meilleure qualité de l'air. Les habitants de Rouyn ont une forte appartenance à leur ville, leur quartier. On peut voir aussi dans un documentaire un témoignage qui est touchant d'un jeune homme qui a perdu une jambe à la suite des traitements ainsi d'un cancer qu'il a eu. Il serait dû en raison des émissions de la fonderie. C'est un documentaire qui est disponible sur Radio-Canada. Ça dure 16 minutes ici. Donc si c'est pour la fonderie... Qu'est-ce que ça cause sur la population? Ça va être davantage des cancers du poumon, puis des maladies respiratoires qui vont être notables à Rouyn davantage que dans le reste du Québec. Aussi, il va y avoir des impacts d'avoir une fonderie sur le sol de Rouyn-Noranda. Les employés ici vont être perçus par certains comme étant des méchants, alors qu'eux aussi vont être interviewés puis vont dire « Mais on fait juste notre travail ». On a beaucoup amélioré nos processus environnementaux depuis les dernières années et on veut travailler ici avec la population. Donc, il y a un dialogue qui est peut-être inverse entre les employés et la population. Et aussi, il y a une perspective comme quoi la fonderie serait protégée par le gouvernement, pardon, parce qu'elle est toujours en haut des lois en ce qui a trait aux émissions de gaz et d'arsenic et de plomb dans l'environnement. Il y a aussi un acteur qui est le gouvernement du Québec, que lui, son rôle, bien, ça va être de donner de l'argent à la fonderie Horn afin qu'elle diminue ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 2027. J'en parlerai plus tard des effets aussi de l'arsenic. Donc récemment, ils ont donné un 2,6 millions de dollars pour des projets d'innovation environnementale. Ça va être des projets pour améliorer les performances environnementales qui vont être directement associés à la fonte de fer. Dans d'autres enjeux actuels, on parle d'un manque de cuivre. Les compagnies sont même prêtes à payer pour faire fondre le cuivre. On rappelle que le cuivre est habituellement requis dans des déchets électroniques. Alors, les fonderies payent 4 $ à la tonne pour s'approprier des déchets avant ces mêmes fonderies vont payer jusqu'à... En fait, avant les compagnies qui voulaient disposer de leurs déchets payaient 80 $ à la tonne pour se débarrasser de leurs déchets. Donc, on voit un rapport de force qui est inversé. Cela va entraîner notamment des chutes de revenus que la fonderie ne peut pas se permettre, ainsi qu'une augmentation de la compétition avec les fonderies chinoises, dont la main-d'œuvre est moins chère, il y a moins de normes de travail et moins de normes environnementales. Pour en venir aux gros enjeux, bien, c'est l'aspect environnemental. On annonce l'abandon du projet Aeris. Ça avait été un projet annoncé l'année dernière afin de réduire les gaz à effet de serre. C'est un projet qui aurait coûté 1 milliard de dollars, donc beaucoup plus cher que les 500 à 750 millions de dollars anticipés il y a un an. Et ça arrive assez souvent dans les gros projets. Ça a été un projet qui aurait constitué à réduire les émissions d'arsenic. qui sont, je rappelle encore, 24 fois la norme québécoise actuelle.
Mais comment ça a été découvert que maintenant, en fait?
C'est ça le truc ici, c'est découvert, oui, que maintenant, mais c'est que l'opinion publique, l'opinion de la population à Rouen se retrouve au gouvernement, aux gens qui peuvent prendre des décisions, et puis, comme je disais aussi, ça fait déjà 100 ans quasiment que cette fonderie est en opération, donc il y a aussi un espèce de couteau à double tranchant de « Ah, mais les gens sont à Rouen pour faire vivre la fonderie, mais en même temps, la fonderie cause des maladies chroniques, beaucoup de maladies chez les gens, puis il y a aussi un coût associé aux gens pour déménager. » Les gens vont aussi dire que, mettons, la propriété de leur maison a diminué en raison des effets néfastes. Donc, ça entraîne beaucoup de défis. Et puis...
Donc, ça s'est fait graduellement, en fait.
C'est ça, ça se fait
les observations,
très...
elles ont... Okay. Voilà, en fait, on a compris l'événement que quand il était déjà trop tard, malheureusement.
Malheureusement, c'est ça. Puis de l'autre côté, ceux qui ont le gros bout du bâton, le groupe Glencore, eux disent « Ah ouais, on s'est beaucoup amélioré, puis on peut s'améliorer, mais les émissions restent encore... » trop grande. Pour rappeler aussi, l'arsenic, ça a des effets néfastes, soit des cancers, des maladies de la peau, des problèmes respiratoires. Aussi, des conséquences sur le développement des jeunes. Donc, ça va jouer dans le développement cognitif. Aussi, d'autres problèmes comme des fuites de dioxyde de soufre en août dernier. Puis, ça peut causer des problèmes de santé en raison des pluies acides. Et la fonderie va avoir... Pendant cette fuite, il va y avoir des émissions de plomb 7 fois plus hautes que la moyenne annuelle en une journée. Donc, si la fonderie essaie aussi de se débarrasser de ses émissions de plomb. Pareil avec ses émissions de cuivre. De poison aussi, qui vont émettre dans l'air. Donc, j'avais une petite question à faire ici, c'est... Est-ce que de moderniser la fonderie Horn, ça reste un défi réalisable? C'est une question qui se pose quand même depuis une dizaine d'années et les démarches peinent à venir. On peut comparer aussi la situation avec Gentilly 2, qui est une centrale nucléaire qui a fermé en 2012 sous le gouvernement de Pauline Marois et qui employait 800 personnes à Bécancour. Et ça a entraîné des conséquences par la suite que... Hydro-Québec doit investir des milliards de dollars pour sa fermeture, pour moderniser ensuite les processus de surveillance environnementale qui sont associés à la surveillance des taux de radiation, aussi de respecter les normes canadiennes pour respecter la santé publique et l'environnement. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait avoir le même avenir pour la fonderie Horn qui devient de plus en plus surveillée, de moins en moins rentable? Et c'était ça un peu ma...
Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça tombe bien parce que ça me rappelle une entreprise qui a été réhabilitée actuellement en France. Tu sais, c'est sur les productions de verre. Tu vois laquelle je te parle?
Oui.
Les verres de cantine et tout.
Oui.
Ouais, ça peut être fait, mais est-ce qu'il y a un potentiel? C'est ça la question. Malheureusement, on sait que les ouvriers qui sont classés dedans, c'est hors de leur portée. Parce qu'en plus, c'est eux les victimes réelles en fait, de ce sujet-là. C'est eux qui sont en train de subir actuellement ces mauvais rendements, ces mauvaises normes de sécurité respectées. C'est eux aussi potentiellement qui vont subir aussi la fermeture de l'usine. Mais moi, je pense qu'actuellement, à moins qu'un investisseur ou que le gouvernement Canada cherche à, on va dire... s'intéresser et à se focaliser sur la production canadienne dans les thématiques de fonderie qui a vraiment une plus-value, je pense pas malheureusement que ça va être fait. Est-ce que toi, vous pensez personnellement de ton expérience, parce que j'ai pas d'accès, je connais pas l'entreprise en soi personnellement, mais est-ce que toi tu penses qu'il y a peut-être un enrichissement à avoir en développant cet outil-là, qui est la fonderie Ford? Je parle à l'échelle nationale pour le Canada, bien sûr.
C'est sûr que pour le Canada, il y a encore des avantages. Puis, mais je pense... il y a une partie, moi, on dirait, qui veut que la fonderie ferme, mais il y a une partie aussi qui veut que ces gens-là gardent leurs emplois, parce que quand Gentilly 2 avait fermé, c'est vraiment la comparaison directe, c'était... Ouais, mais ces 800 gens-là, ils sont spécialisés dans le nucléaire, puis on n'a plus de centrale nucléaire, donc convertir leurs emplois dans d'autres branches.
Ça va être
à Hydro-Québec, c'est compliqué aussi. Puis... D'autre part, comme tu disais, surtout, c'est que ces employés-là, c'est eux qui subissent de plein fouet les conséquences physiques, parce que même s'ils ont des masques, même s'ils sont équipés, c'est ils font fondre des métaux qui émettent beaucoup de poison et de d'autres comme de l'arsenic, du plomb, que le plomb, on essaie de s'en débarrasser le plus qu'on peut dans notre société aujourd'hui.
Après, je suis d'accord, mais moi, je pense après que si... tu me diras, William, ton avis sur ça après.
Tout à fait.
Moi, je pense que si, au-delà de ça, on n'a pas une protection réelle qui est proposée aux habitants qui sont avoisinant cette entreprise, ou même sur le respect des normes, malheureusement, il va falloir sanctionner. Et il faut aussi penser à un possible... ça, c'est ça le plus compliqué. C'est pour ça que je parle d'investisseurs. Il faudrait qu'il y ait aussi une démarche de la part du gouvernement pour pouvoir promouvoir l'entreprise et proposer peut-être une réhabilitation sur un autre type ou un autre format de production d'énergie ou de fonderie qui peut parler aux ouvriers. Mais c'est vrai que c'est, pour l'instant, le sujet est assez compliqué. Mais bon, la question, je pense qu'il faut se dire sur ça, corrigez-moi si ce n'est pas bon, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale ou alors l'humain et le social. C'est ça la question en vrai. Est-ce qu'on préfère protéger notre nature, protéger nos ressources, protéger la sécurité et la santé des habitants, ou alors on va chercher peut-être à se focaliser aussi un peu sur l'aspect pas mettre au chômage des centaines de dizaines de milliers de spécialistes. Ça, je trouve que ça va être un sujet assez compliqué d'équilibre pour le gouvernement québécois, à voir leur réaction. Moi, ce sera ma seule remarque.
C'est exact. En fait, tu as vraiment résumé parfaitement ma pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire le choix entre une économie, en fait, notre économie locale et l'économie, et en fait, finalement, les gens qui y travaillent, ou de l'autre côté, effectivement, les questions de santé publique et les questions environnementales, comme tu viens de le dire. En fait, c'est exactement le problème pour moi. Et c'est un truc qui se généralise à énormément d'entreprises dans le secteur de l'industrie et de l'énergie, où finalement, on est en train de se poser la question. Mais en fait, c'est quoi notre objectif en tant que nation? C'est quoi notre objectif sur le long terme? Est-ce que, en fait, on est prêt à sacrifier une certaine quantité d'emplois, et je parle bien de quantité en termes de chiffres.
Après,
tu vois ce que je veux dire, mais il y a des gens derrière.
Mais c'est jouable après, tu vois. Parce que ça reste des spécialistes, et c'est les spécialités nucléaires, ça reste dans le domaine actuel. Mais surtout avec l'évolution de l'IA et de la consommation de data qu'on a.
Et c'est des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont des savoir-faire, qui sont vraiment parfois centenaires, voire bicentenaires dans certaines industries. Moi, en fait, c'est exactement le cœur du problème aujourd'hui. C'est en fait, en faisant le pour et le contre. Et dans une espèce de question où en fait on est aussi dans une mondialisation où en fait les coûts augmentent, et à la fin, est-ce que c'est, enfin là, le groupe dont tu parlais à ce moment-là, est-ce qu'à un moment donné ils vont préférer faire leur projet industriel en Chine parce que ça coûte moins cher? Encore une fois, la Chine, c'est l'atelier du monde, c'est cette partie-là où en fait eux ils vont pas se poser des questions ni éthiques ni environnementales ni sociales, voilà. Et c'est en fait, moi, pour moi, c'est le cœur du problème aujourd'hui, c'est que on sait plus vraiment donner du sens aux valeurs, à ce qu'on est capable de faire en termes de nation.
Voilà. Bah, après,
c'est mon souci aujourd'hui.
Je tiens à dire après que aussi, je vais refaire un rebond, tu vois, sur des entreprises qui ont été réhabilitées en France. En général, les trois prérequis qu'on demande, de ce que j'observe et que je comprends, donc je ne dis pas avoir une réponse absolue sur ça, je ne suis pas politicien, Dieu merci, je suis ingénieur. C'est qu'en général, pour qu'il y ait une réhabilitation à ce niveau-là, il faudrait qu'à la fois, on tombe sur un investisseur, un projet à intérêt réel, et également aussi, potentiellement, aussi, quand je parle d'investisseur, il faut comprendre un truc, ça peut être soit investisseur, soit aussi particulier.
Ouais.
Par exemple, il y a des entreprises qui se sont réhabilitées avec la seule force de la masse salariale qui a été constituée dedans. Et
qui sont devenues des coopératives.
Voilà, qui sont devenues des coopératives et qui ont commencé à produire. Donc certes, les rendements sont moins importants, mais ça ne limite pas le travail.
Ouais.
Et je pense qu'en termes des spécialistes, s'ils sont vraiment spécialisés en nucléaire, en vue des dérives qu'on a sur le cloud, l'émergence de l'IA ou des réseaux ou toute autre consommation de data complexe, ça demande des ressources énergétiques assez importantes. Et peut-être ça peut être intéressant pour le Canada de promouvoir ou peut-être de commencer à installer ce type de serveur au sein de son institut. Pour pouvoir avoir du rendement, sachant qu'actuellement, c'est les trois quarts des investissements de Meta, TikTok, Snap ou tous les autres projets qui se basent sur l'exploitation de la création de contenu numérique. Donc, à voir.
C'est ce qui est fait, en fait, entre guillemets, c'est d'investir dans, entre guillemets, des industries du futur et de progressivement transitionner vers des industries qui soient plus...
Peut-être une transition, c'est une solution.
Ouais.
C'est ça qu'on essaye de dire.
Mais il faut sauvegarder les emplois, il faut essayer de se poser des questions sur l'impact aussi environnemental de toutes ces questions-là. C'est tellement de
sujets. Parce que c'est quoi les propositions actuellement?
C'est ça.
Les propositions.
On conclura sur ça.
Les propositions, c'est vraiment l'initiative citoyenne, parce que c'est eux qui subissent de plein fouet les conséquences environnementales de santé. Donc, puis ces propositions-là ne sont pas, écoutées à la hauteur pour le gouvernement, parce que le gouvernement va mettre des plans d'action pour la compagnie, mais qui les dépasse quand même. Puis le problème aussi, c'est que Glencore, le groupe, avait développé un projet pour 2027, mais a dû annuler parce que c'était trop coûteux. Donc, je pense que vraiment l'enjeu numéro un, c'est les coûts. Puis un peu comme on disait, là, ou William disait, c'est davantage de déménager vers la Chine ou de créer une branche à Rouen qui serait spécialisée dans peut-être davantage le tri que juste la fonte des métaux pour réduire les émissions ou quelque chose. Une solution gagnante.
Gagnant-gagnant potentiellement. Ouais. OK.